CPO Radio.TV, la radio 100% dédiée au directeur achat. En partenariat avec le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio.TV. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter et CPO Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Emmanuel Lacquière, directeur commercial du groupe EPSA OP. OP, c'est dire conseil, Emmanuel, hein, c'est ça hein.
Opération et procurement.
Exactement. Pascal Leroy, managing directeur de CRM, spécialiste de l'aménagement et de l'équipement des espaces de travail. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Et l'excellent Gilles Navarro, rédacteur en chef adjoint de CPO Radio.TV. Gilles, bonjour.
Bonjour Alain.
Alors aujourd'hui, il paraît qu'on parle assurance et la meilleure des mutuelles.
Oui, tout à fait Alain. Nous recevons aujourd'hui Pascal Folio, directeur des achats d'AG2R La Mondiale. Bonjour Pascal.
Bonjour à tous.
Alors vos études se sont décomposées en deux parties. Une première qui s'est achevée par un DUT en gestion des entreprises et administration. Et la seconde, ponctuée par un master HEC de directeur des achats. On peut considérer que vous avez vécu deux carrières professionnelles distinctes ?
En tout cas, une belle continuité. Je ne sais pas si c'est deux carrières distinctes, mais la distinction que je ferais, c'est entre ma carrière de consultant et ma carrière dans mon entreprise actuelle, où là, j'ai évolué même sur différents métiers au sein de l'IT. Je dirige des projets, mais aussi je pilote le plan projet et le suivi de ce plan projet, ce qui m'a amené... puisque c'est un peu naissant à l'époque, en tout cas dans notre milieu, à m'occuper un peu des achats. Et donc, c'est, comme je n'étais pas formé achat, c'est là que j'ai proposé effectivement à mon entreprise de partir faire ce master spécialisé en achats et supply chain.
Alors justement, entre l'informatique et les achats, les métiers diffèrent. Comment arrive-t-on à fixer son choix ?
Écoutez, en fait, je pense que parfois la vie est faite de belles opportunités, donc je l'ai fixé un peu au gré de nos rapprochements, puisque à cette époque, AG2R se rapprochait de La Mondiale, oui. J'avais un périmètre d'activité avec un collègue côté donc La Mondiale qui avait le même périmètre que moi. Donc on s'est séparé un peu nos activités et moi je me suis les achats m'intéressaient, la relation avec les fournisseurs m'intéressait, donc je me suis spécialisé sur les achats et puis
Et ça représente combien en volume pour le groupe hein?
Les achats, plus de 400 millions.
400 millions, donc c'est très important quand même.
Oui, c'est important, après, bien sûr, après la masse salariale du groupe.
Gilles.
Alors avant AG2R La Mondiale, vous êtes ingénieur informatique chez Accenture. Quel souvenir en avez-vous gardé ?
Un excellent souvenir. Vraiment, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer juste après mon cursus scolaire chez Accenture pour faire mon stage. Voilà, j'y suis resté 9 ans. Et pendant 9 ans, j'ai appris, moi qui étais un vrai provincial, j'ai d'abord appris à vivre à Paris et puis même ailleurs. J'ai appris à mener des projets, à travailler... en équipe importante, puisque notamment, enfin ma dernière mission, je l'ai effectuée pour Shell et on avait un projet de mise en place de SAP, donc sur un projet européen où là on était quelques dizaines de nationalités différentes à travailler sur un même sujet.
C'est passionnant ça. Hein
ouais.
Le management interculturel.
C'est extraordinaire. Après, moi, je suis parti un peu avec la boule au ventre, mais j'avais fait le choix de partir, je suis parti.
Ouais, c'est cool. Gilles.
Alors justement, lorsque vous rejoignez AG2R La Mondiale, en 1998, ouais. Vous changez de secteur d'activité, pourquoi ?
Parce que mes missions chez Accenture étaient essentiellement des missions en province. Moi, j'avais besoin aussi de me stabiliser, de fonder une famille. Je voulais retrouver ma chère et tendre ici sur Paris. Et donc, l'industrie m'intéressait beaucoup, mais sur Paris, c'était un peu compliqué. Donc, voilà, je suis parti sur quelque chose de nouveau. Je ne connaissais pas du tout le monde de l'assurance. Hein. J'avais jamais travaillé en tant que consultant.
Vous étiez assuré quand même.
J'étais assuré.
Oh, c'est bien, Pascal.
Je ne connaissais même pas ma caisse de
retraite. Emmanuel.
Alors, Pascal, en mai dernier, on a beaucoup entendu parler... du non-mariage entre AG2R La Mondiale et la Matmut. Quels impacts au niveau des stratégies achats ? J'imagine que vous avez beaucoup travaillé sur les synergies en amont. Et du coup, vous avez fait machine arrière ?
Oui, on a fait machine arrière. Alors, on était... je veux dire, le mariage était quand même assez récent. Donc, voilà, la décision importante qui a été prise relativement vite. Donc ça, c'est extrêmement salutaire, en tout cas pour nous, parce que dans nos discussions...
Il n'y a pas encore trop d'engagement, quoi.
Non, oui. Non. assez peu d'ailleurs, puisque même en fait, on avait fait le choix sur le périmètre AG2R La Mondiale de partir, de changer de CRM et de partir avec Salesforce. Donc bien sûr, Matmut était dans la même réflexion, donc on a travaillé, on a discuté ensemble, mais déjà à l'époque, on avait fait le choix de faire des contrats séparés. Mmh.
Alors justement, quand on vient du monde de l'IT, on parle beaucoup de digitalisation aujourd'hui, digitalisation des achats bien entendu. Quels sont les grands enjeux au niveau de AG2R La Mondiale aujourd'hui ?
Alors, on a une direction du digital, donc qui a impulsé quand même beaucoup de choses, mais la digitalisation, c'est un changement de culture, et donc pour nous et pour tous les collaborateurs, c'est comment on se met dans le mouvement, comment on arrive à changer de façon de faire, et comment on s'inscrit dans ces changements perpétuels. Alors, on a un gros avantage, si je puis dire, c'est que des rapprochements, on en a fait beaucoup, énormément.
Oui, notamment la Mondiale, vous avez
oui,
référence à
la Mondiale, après Réunica, enfin tous les ans, on a des mutuelles qui nous rejoignent, des petites mutuelles, donc on est habitué, j'allais dire, à ces changements. Maintenant, moi, dans ma fonction d'achat, ce que veut dire le digital,
quoi.
Ouais. Bien sûr, enfin, réponse, c'est d'abord se mettre en œuvre des outils. Hein, des outils un peu digitaux. Donc là, on a fait le choix d'un outil qu'on a mis en œuvre dans le cadre d'un programme de chaîne de la dépense. Donc on l'a pas pensé que achat, mais toute la chaîne de la dépense, depuis la prévision jusqu'au suivi à la facturation. On a essayé, donc on a fait le choix d'un outil marché en gardant les fonctionnalités du produit sans y ajouter de spécificités propres à notre groupe. Pour moi, c'était extrêmement important parce qu'on voulait un outil qui puisse être scalable très vite, puisqu'on avait fait le choix d'avoir un outil hébergé, enfin en mode SaaS. Donc, bien sûr, on n'a peut-être pas forcément toutes les fonctionnalités qu'on attendait,
oui,
mais ça nous permet d'être rapide. Après, dans notre changement de posture, nous, en tant qu'acheteurs, ça a été extrêmement important parce que tout change. Et ce qui est extrêmement important dans la fonction d'achat, c'est tous les changements qu'on a pu vivre. Ce qu'on était il y a 15 ans, 10 ans, 5 ans et aujourd'hui, en tant qu'acheteur, ça n'a plus grand-chose à voir. Voilà. Et le mode de relation, la relation qu'on doit avoir avec nos fournisseurs change énormément. Mmh. Hein? Puisque avant, on était vraiment dans une relation, je sais pas comment dire, de client-fournisseur. Aujourd'hui, on doit arriver à développer
des vrais partenariats,
des vrais partenariats.
Avec une pérennité peut-être dans les relations également. Quoi.
Autant que possible.
Daniel,
du coup, les grands enjeux sur les années 2019, 2020, 2021 au niveau des achats.
Vous avez 5 heures, Pascal.
Moi, les grands enjeux, c'est en tout cas de continuer notre démarche de changement pour l'ensemble des collaborateurs, de maintenir, moi je crois beaucoup aux achats, ce que j'appelle les achats de bout en bout. Mmh. C'est-à-dire que notre métier ne peut pas se cantonner à la seule négociation avec les fournisseurs. La relation qu'on a avec les fournisseurs, c'est une relation de bout en bout, c'est-à-dire que aussi bien en avance de phase avec les métiers pour définir nos besoins, essayer de définir le sourcing avec les métiers, bien sûr les phases d'appel d'offres, de suivi, mais aussi la gestion, l'accompagnement de nos métiers dans la gestion potentielle des litiges, parce que ça peut arriver, et le suivi des fournisseurs. Et comment aussi, dans nos grands enjeux et avec tout ce qu'on souhaite développer dans le groupe, c'est comment on arrive à créer des partenariats, notamment avec les start-up.
Oui. Ça c'est important, hein. Ça tient à cœur notre directeur général, l'excellent André Renaudin notamment, ainsi que votre directeur financier qui est excellent aussi. Hein.
Oui.
Ouais. Bah, oui. Et vous reportez à eux ou êtes,
Moi je reporte au directeur général adjoint, qui est Jean-Marc Robinet.
On le salue, Pascal.
Oui, alors on a vu que le périmètre d'achat me paraît extrêmement large pour AG2R La Mondiale. La question, c'est un peu, quel est le fil conducteur ? Est-ce que c'est, comme vous le disiez, de créer des partenariats durables avec vos fournisseurs ? Est-ce que c'est de participer à la transformation du groupe au travers d'une sélection différente des fournisseurs ?
Alors, en fait, dans la mesure du possible, c'est, si je puis dire, c'est le tout. C'est-à-dire que quand on entame une discussion avec des fournisseurs, on essaie de la penser dans la durée. Voilà. Parce qu'on ne peut pas faire un achat one shot. Sauf bien sûr si c'est sur quelque chose dont on est certain qu'on n'aura pas
besoin. Et vous arrivez, Pascal, avec votre agenda à prendre un peu de temps pour rencontrer des nouveaux fournisseurs? Vous parliez de start-up tout à l'heure, parce que ça prend du temps, ça.
Oui, ça prend énormément de temps. Alors, on a un comité d'innovation où on regarde un peu l'ensemble des start-up. Moi-même et mon équipe, on n'a pas la capacité à tous les rencontrer. Parce que ça aussi, en fait, c'est un élément qui a changé. Avant, l'acheteur c'est celui qui proposait le sourcing. Aujourd'hui, on n'a plus la capacité de le faire. Il y a trop de monde sur la place, et puis parce qu'on n'a pas suffisamment la connaissance. Nous, on accompagne, on va dire, on peut être chef d'orchestre, on organise, mais on ne peut pas avoir la connaissance métier. Mmh. Et pour rencontrer des startups qui vont développer des nouveaux concepts, des nouveaux produits, on a besoin d'expertise des métiers. Donc c'est plutôt eux qui reviennent vers nous, et nous, le curseur s'est un peu déplacé.
Bien sûr.
Et nous, on va gérer quoi ? On va gérer les risques, on va gérer avec ces startups la recherche de modèles économiques. Oui. Comment on arrive à créer quelque chose qui soit un peu pérenne, c'est-à-dire que nous, on n'y perde pas trop d'argent et qu'on y mette le juste argent qu'il faut, mais que la start-up, qu'on ne la mette pas exsangue.
Pascal ?
Alors, on parle beaucoup de RSE dans plein de domaines et dans plein de groupes. J'ai vu que AG2R, la mondiale, a de très beaux engagements, notamment en termes de ressources humaines. La question que je vais vous poser, c'est comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour garantir le bien-être de vos collaborateurs ?
On a mis en place le télétravail tout dernièrement avec quelque chose d'assez exceptionnel. On a commencé à travailler on a commencé par des groupes de travail en interne. Ensuite, donc il y a eu une vraie volonté de la direction générale de le pousser. Et en 6 mois, 9 mois, il y avait plus de 1000 collaborateurs déjà qui pouvaient accéder au télétravail. Bon, donc voilà, donc on est extrêmement soucieux du bien-être de nos collaborateurs. On a aussi changé nos façons de travailler. On a ouvert davantage nos bureaux. On a essayé d'apporter du service aux collaborateurs sur les plus gros sites avec de la conciergerie, avec des espaces repos, détente. Et puis on a aussi, puisqu'on est dans un monde qui est un peu chahuté, donc on essaie de rassurer nos collaborateurs sur leur employabilité
et la pérennité du groupe Vos titres personnels, sans entrer dans les secrets, vous adorez la cuisine. Quels sont vos bons petits plats du moment?
Alors, du moment, c'est pas forcément d'actualité, parce que c'est pas forcément des plats d'été, mais je suis un peu du terroir, donc...
C'est très bien,
les plats terroir. Voilà, donc j'aime beaucoup le gigot de 7 heures.
Ah, ça c'est bon, ça.
Ça c'est bon.
Un pot-au-feu, par exemple.
Ça c'est ouais. Encore mieux.
Et une poule au pot.
Avec une soupe et la poule au
pot. Alors, côté vin, il paraît que vous adorez un vin, c'est le Château Soutard. Oui. Pas le choix, oui. Attention, pas de blague.
Bien sûr.
Bon, et pour terminer, Pascal, dernier livre lu.
Alors, le tout dernier livre que j'ai lu, là, c'était pendant les vacances, dans les Pouilles, et puisque mon fils va passer son bac, j'ai lu Les Lettres persanes de Montesquieu.
Et vous avez combien en bac, vous, en lettres persanes?
Oui, voilà, je n'avais pas les lettres persanes, mais je dois dire que j'ai redécouvert, et c'est quand même assez intéressant, parce que je trouve que c'est quand même un livre extrêmement d'actualité, puisque, en fait, ça pose quand même la question de la démocratie.
Bien sûr.
Et notamment des religions, et je trouve que c'est
à lire ou à relire. Merci Pascal 1, merci Pascal 2, Emmanuel et Gilles, fin de ce numéro de cpioradio.tv. Retrouvez toutes nos actualités sur notre compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
Cpioradio.tv vous a été présenté par Alain Marty.